C'est pas la même chose. Oui, donc, seconde humanité. C'est très difficile à traduire en français, ça je suis tout à fait d'accord. Alors je comprends très bien, le père Iris étant de temps en temps fatigué, allez vite. Parce que c'était un Normand, le père Iris, un Normand vaincu. Alors il était comme ça, il était de temps en temps dans cette attitude, un petit peu trop fatigant, alors n'allons pas plus loin. Voyons tout de suite la réponse aux objections. Au point de vue de la grâce causée dans l'homme par la présence de la divinité, donc en recherche la cause propre, et puis au point de vue de la fin, au point de vue de l'agir. Alors voyons. Il ne semble pas que la grâce habituelle soit dans le Christ une conséquence de l'union. Une réalité, en effet, ne peut être à elle-même sa propre conséquence. Mais cette grâce habituelle paraît être identique à la grâce d'union, puisque saint Augustin écrit « Cette grâce qui fait que dès le principe de sa foi, un homme devient chrétien, et celle-là même par laquelle, dès son premier instant, cet homme a été fait Christ. De ces deux grâces, la première appartient à la grâce habituelle, la seconde à la grâce d'union. C'est donc que la grâce habituelle n'est pas une conséquence de la grâce d'union. Nous avions déjà vu ça, ce type de raisonnement. Y a-t-il une disposition à la grâce d'union ? S'il y a une disposition à la grâce d'union, d'une certaine manière, la disposition est antérieure à la forme. Oui. Alors, saint Thomas va répondre, on voit bien. Par grâce, saint Augustin entend ici la volonté libérale de Dieu qui dispense ses bienfaits gratuitement. Et c'est en ce sens-là qu'il dit que la même grâce qui rend un homme chrétien fait aussi qu'un homme est devenu Christ. L'une et l'autre œuvre proviennent en effet, sans aucun mérite de notre part, de la bonté toute gratuite de Dieu. Ça, c'est noyer le poisson. Une réponse tout à fait... Toujours quand saint Thomas est devant saint Augustin, il fait toujours des choses comme ça, des turlupettes, tout simplement. Saint Augustin, mais regarde la grâce, ça vient du Christ, ça vient de Dieu, c'est donné gratuit, alors c'est de grâce, tout simplement. Saint Augustin, mais c'est évident, saint Augustin n'a pas du tout le même souci de rigueur. Oui, donc il peut dire des choses comme ça. C'est beau, c'est très beau. En prédication, vous pouvez le faire. Donc, et même il faut le faire en prédication, parce que si vous donnez du saint Thomas en prédication, vous ferez fuir les gens. C'est bien évident, c'est impossible. Deuxième objection, la disposition précède l'achèvement, soit dans l'ordre du temps, soit dans l'ordre conceptuel. Alors, toujours cet ordre conceptuel, c'est toujours saltem intellectu, c'est très difficile. Oui, alors dit conceptuel ou logique, alors que c'est le fondement du conceptuel et le fondement du logique. Je crois, quand saint Thomas dit ça, c'est la ratio. Mais la grâce habituelle apparaît comme une certaine disposition de la nature humaine à l'union personnelle. On a déjà vu que c'était faux, mais ça revient comme objection. C'est donc que, loin de suivre l'union, elle la précède plutôt. Alors, réponse de saint Thomas. Pour les choses qui se font progressivement, la disposition précède, dans l'ordre de génération, l'achèvement auquel elle prépare. Au contraire, elle suit naturellement l'achèvement quand celui-ci est déjà acquis. Ainsi, la chaleur, qui est la disposition à la forme de feu, est aussi l'effet qui résulte de cette forme lorsque celle-ci préexiste. Or, la nature humaine du Christ est unie à la personne du Verbe dès le principe et sans étape progressive. Par suite, la grâce habituelle ne peut pas être envisagée comme précédant l'union, mais comme en résultant à la manière d'une propriété naturelle. Et c'est en ce sens-là que saint Augustin écrit que la grâce est en quelque sorte naturelle au Christ homme. Elle est naturelle parce qu'elle est d'une conséquence normale, nécessaire. Par le point de vue de la nécessité qu'on dit naturelle. Dernière objection, ce qui est commun est antérieur à tout ce qui est propre. C'est assez joli ces objections, hein. Tu vois, la question de l'antériorité et de la postériorité, c'est toujours très intéressant ça, au point de vue intelligibilité ultime. Donc, ce qui est commun est antérieur à ce qui est propre, mais la grâce habituelle est commune au Christ et aux autres hommes. Et un raisonnement œcuménique, hein, toujours intéressant de voir où ça aboutit. La grâce d'union, au contraire, est propre au Christ. La grâce habituelle est donc antérieure conceptuellement à la grâce d'union et ne la suit pas. C'est condum intellectum, conceptuellement. Alors, voyons la réponse de saint Thomas. Très très jolie cette troisième objection. Retenez-la, parce qu'il y a beaucoup de raisonnements comme ça qui se font au point de vue œcuménique. Et on voit que c'est une objection. Donc on est dans le fossé. C'est un petit peu à côté. C'est, on prend par le point de vue ce qui est commun. Ce qui est commun n'est jamais ce qui est propre. C'est le raisonnement d'Aristote. Hein. Ce qui est commun entre l'homme et l'animal n'est pas propre à l'homme. Ce qui est commun est antérieur à ce qui est propre. S'il s'agit de réalités de même genre. Mais dans les réalités de genres différents, rien n'empêche que ce qui est propre précède ce qui est commun. C'est très très joli ça comme argument. C'est très intéressant par rapport à tous les raisonnements scientifiques. C'est le raisonnement de Monod, ça, vous savez, à propos de la vie. Le hasard et la nécessité. Il prend ce raisonnement-là, exactement le même. Parce qu'on met un genre, comme si la vie était un genre. Il n'y a pas une notion analogique. Alors c'est pour ça que c'est très très intéressant. Ce qui est commun est antérieur à ce qui est propre. S'il s'agit de réalités de même genre. Le raisonnement scientifique, c'est toujours ramené au même genre. Vous voyez ? Comme s'il y avait un genre vie. Alors, la vie est une réalité que je ne peux saisir qu'analogiquement. Il n'y a pas le genre du vivant et du non-vivant, non. Ou le genre vie. Alors, le raisonnement scientifique repose, de scientifique, de science moderne, si vous voulez, c'est toujours de cette manière-là. Mais dans les réalités de genres différents, allô, hein, c'est-à-dire dans les réalités qui sont saisies d'une façon analogique, rien n'empêche que ce qui est propre précède ce qui est commun. Or, la grâce d'union n'est pas dans le genre de la grâce habituelle. Elle est au-dessus de tout genre, comme la personne divine elle-même. Aussi, rien n'empêche que cette réalité propre au Christ soit antérieure à la réalité commune. Car elle ne s'obtient pas par addition à l'élément commun, mais elle en est plutôt le principe et l'origine. Pas de difficulté ? Hein ? J'ai l'impression que dans le fond, ils ne suivent plus du tout. Hein. Vous êtes en dessous du niveau de la mer. Hein. C'est pas étonnant, hier. Les trois quarts d'heure ont passé. Alors, récitez votre chapelet. Dites.
Une question par rapport à la grâce des créatures. Est-ce que dans quelle mesure peut-on faire un rapprochement entre la grâce divine du Christ, de laquelle jaillit la grâce habituelle, et puis dans l'homme, la créature théologale? Est-ce qu'on peut dire que, dans quelle mesure peut-on faire un rapprochement et dire que les vertus théologales proviennent d'une grâce fondamentale première?
Je vois pas très bien. Répétez, ça vous l'a.
La grâce habituelle provient de la grâce d'union dans le Christ, oui, comme oui. Son rayonnement, oui. Comme l'effet de la grâce d'union.
Ah oui, dans quelle mesure vous en faites l'analogie ? C'est pas la même causalité. Alors faites attention, hein. Je vois ce que vous dites.
Peut-être préciser.
Oui. Grâce d'union. Grâce d'union, c'est le verbe qui assume la nature humaine. Grâce habituelle. La grâce habituelle, et à partir de là, elle est cause des vertus théologales. Alors, la relation qui existe entre cause et effet, à ce niveau-ci, est-elle analogue à ce niveau-là ? C'est bien ça que vous dites, hein ? Bon. Alors, vous voyez bien que, ici, l'analogie, saint Thomas la prend toujours, entre l'âme et les puissances. Donc, c'est de la grâce habituelle émanent les vertus théologales. Comme de l'âme émanent les puissances. Alors, c'est une causalité immanente d'un principe. Alors, c'est efficient, c'est évident, mais c'est une causalité immanente d'un caractère très particulier, très difficile à préciser. Tandis qu'ici, on ne peut pas dire que c'est une causalité immanente. Puisque c'est le Verbe de Dieu uni à la nature humaine qui va être source de la grâce sanctifiante, de la grâce habituelle. C'est un cas unique. Quel est ce genre de causalité qui existe entre les deux ? Quel est ce genre de causalité qui existe entre l'union hypostatique et le point de vue de la grâce habituelle ? C'est une causalité. Elle n'est pas formelle. Hein. Ici, elle est beaucoup plus formelle. Le lien entre la grâce habituelle et les vertus théologales, il y a une continuité beaucoup plus grande. Oui. Tandis que entre la grâce d'union et la grâce habituelle, je ne peux pas dire qu'il y a de continuité. Parce que l'une est d'ordre personnel de la très sainte Trinité. C'est que la nature humaine assumée par le Verbe demeure dans le Verbe, tandis qu'au contraire, la grâce habituelle, elle est comme vision, mais elle est créée. Oui. Donc je passe du mystère de la très sainte Trinité à ce qui est créé. Donc on peut dire que c'est une causalité efficiente, transcendante, si vous voulez. Et c'est bien le raisonnement que prenait saint Thomas au début de l'article, hein, quand il disait la proximité de la source. Vous recevez plus de chaleur quand vous êtes tout proche de la source. Donc c'est bien la causalité efficiente. Vous recevez une chaleur plus grande. Tandis que lorsqu'il s'agit des vertus théologales vis-à-vis de la grâce habituelle, vous êtes en face d'une causalité immanente, d'une source de vie radicale, la source de vie radicale comme substance. C'est l'analogue à la grâce habituelle et l'analogue à l'âme. Par rapport aux puissances. Donc, source immanente où la causalité formelle est beaucoup plus forte. Il y a une continuité de vie. Tandis que là, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a une espèce de passage du transcendant à quelque chose de créé. Donc, c'est la différence entre une causalité efficiente, qui a une causalité efficiente équivoque, dans le sens analogique, si vous passage de l'incréé au créé. Et de l'autre côté, c'est à l'intérieur même d'un principe de vie, d'une source de vie, vis-à-vis de tous les effets de cette vie.
Oui. Pour revenir au corps de l'article, la deuxième raison que donne saint Thomas, il parle de la cause qui est la présence de Dieu.
Oui.
Quelle est cette présence ? On peut dire que la mission du Fils ou de l'Esprit Saint, c'est une présence, c'est une nouvelle présence.
Oui, c'est une nouvelle présence, mais c'est
là,
comme...
C'est cette seconde présence de la divinité.
Dans le Christ, c'est la sanctification immédiate de l'humanité sainte de Jésus. Et l'humanité sainte de Jésus devient le temple du Saint-Esprit. Alors que s'il n'y avait pas la grâce habituelle, s'il n'y avait que la grâce d'union, l'humanité sainte du Christ serait uniquement en Dieu sans être sanctifiée formellement. Prenez un tout petit peu, pour analogie si vous voulez, la perspective de Luther par rapport à la sanctification. On est dénommé saint, on n'est pas formellement. Alors il y avait un peu ça, vous voyez, respectant. Le Christ serait dénommé fils de Dieu par les noms hypostatiques. Mais il ne serait pas formellement saint. Il n'y avait pas la grâce habituelle qui viendrait transformer sa nature humaine. Donc il y a deux présences différentes. Il y a la présence, c'est pour ça que je dis une causalité transcendante. Il y a une présence du Verbe de Dieu dans le Christ en tant que la nature humaine subsiste dans le Verbe. Et si cette nature humaine n'était pas sanctifiée par la grâce habituelle, qui est immanente, elle transcende, mais qui vient qualifier la nature humaine formellement, il n'y aurait pas cette présence nouvelle de l'habitation de Dieu en lui. Ce serait extrinsèque. Ce serait sanctifié de façon extrinsèque. Alors, extrinsèque, faisons attention, parce que c'est quand même un extrinsèque très particulier, puisque c'est l'union hypostatique, c'est dans la personne humaine, mais c'est quand même... C'est la question de la cause formelle qui ne serait pas aussi forte. Et c'est pour ça que simplement récuse toujours l'analogie de dire que l'union hypostatique n'est pas analogue à l'union de l'âme et du corps. Vous voyez, c'est la même chose. Tandis qu'ici, au contraire, vous pouvez dire que par la grâce habituelle, l'humanité sainte du Christ est comme, et elle est vraiment sanctifiée formellement.
Ça demande une présence de Dieu dans le Christ, ça irait dans le sens des deux esprits.
Ah non, c'est la présence. C'est l'opération, c'est un autre. C'est la deux vies, c'est une vie. Il y a deux vies, tout simplement. Il y a deux vies dans le Christ. Il y a la vie du Père et la vie de la nature humaine. La présence n'est pas au niveau de l'essai, c'est la présence de la vie. La présence, qu'est-ce que c'est une présence? La présence, c'est une relation qui implique comme fondement l'action. Vous êtes présent à moi dans le jour où je vous aime. C'est pas mon essai, c'est mon opération vitale.
Est-ce que les deux essais justement ne reposent pas sur cette histoire de l'essai
substantiel? Non, on verra ça. Mais maintenez le point d'interrogation. C'est une question intéressante, c'est pour ça qu'il faut maintenir le point d'interrogation. Mais là, c'est directement la présence, c'est la question de la vie. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. Donc, on agit sur lui au point de vue de la connaissance, au point de vue de l'amour. Alors, c'est tout simplement qu'il y a deux vies dans le Christ. Il y a deux volontés dans le Christ. Une volonté divine, une volonté humaine. Alors, commençons. Question 8.
Oui. Je ne sais pas très bien, au niveau des expressions, on dit que la grâce d'union, que la grâce habituelle dans le Christ provient de la grâce d'union, et en même temps qu'elle est créée. Donc, on dit...
Oui, elle provient, vraiment, c'est pour ça que je dis cause efficiente transcendante. Analogue, vous voyez, analogue, comprenons bien, analogue à la création de la grâce. La grâce peut être considérée comme un effet de la toute-puissance de Dieu, une causalité efficiente transcendante, parce qu'elle est créée. Vous voyez, et la grâce en elle-même est source de vie. Donc, les deux relations que je dois toujours voir dans la grâce. Elle est à la fois un effet et en même temps, elle est source de vie. Oui. Alors, c'est la même chose ici. Vous pouvez regarder la grâce habituelle dans le Christ en tant qu'elle est créée par le Verbe de Dieu. Et en raison même de l'union hypostatique, l'humanité sainte du Christ est dans la source même, personnellement, dans la source de toute grâce. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement chaude. C'est l'analogie de la chaleur si on est plus proche de la source. Donc elle reçoit autant qu'on peut recevoir. La nature humaine est ignée, transformée par la chaleur du Verbe. Vous voyez ? Complètement. Et l'effet, c'est la grâce habituelle. Et cette grâce habituelle vient sanctifier la nature humaine du Christ pour lui permettre de connaître une nouvelle présence du Verbe. une nouvelle présence, une présence autre que celle de l'union hypostatique.
Oui. Je voudrais dire en fait l'analogie sur la grâce habitus, en tant qu'habitus, elle est l'unité, elle est finie, et en tant que nouvelle vie, elle est
infinie. Elle est infinie. C'est la ratio, c'est pour ça qu'il prend ratio gratier. Au niveau ratio, vous n'êtes pas au niveau de l'habitus. Tandis qu'au niveau habitus, c'est bon. Forcément, elle est infinie. Donc elle est finie en tant qu'être. Mais en tant que ratio, non. Elle est infinie. Et c'est pour la croissance, c'est la même chose. Alors si vous voyez uniquement le point de vue de l'être, derrière ma rue, le point de vue de croissance, elle pourrait être plus grande. Non, parce que je prends du côté. La ratio me donne la raison de la mesure de l'être.
C'est la vie.
C'est ça. Et à l'inverse de ce qu'il y a d'habitude, je dois inverser mon raisonnement. D'habitude, l'être mesure la vie. Là, c'est la vie qui mesure l'être. Alors, courage, hein, dans le fond de la classe. Vous voyez, comme ils ont du courage, vos frères, hein, ils avancent, ils vous entraînent. Alors, question 8, la grâce capitale du Christ. Ça, c'est une question très, très intéressante, hein, et capitale pour nous. Très intéressante, absolument capitale pour nous. Il nous faut maintenant considérer la grâce que le Christ possède comme tête de l'Église. Caput ecclésiae. Alors vous voyez, c'est cela qui nous fait comprendre qu'il n'y a pas de traité scientifique de l'Église. Là, je suis obligé d'aller contre le cardinal Journet. Parce que si on comprend ça, on voit qu'il ne peut pas y avoir de traité scientifique de l'Église, au point de vue de théologie scientifique. Oui.
On pourrait dire que si, mais qu'il n'a pas ses principes en lui-même.
Oui, mais c'est donc qu'il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas. Venez, parce que un vrai traité scientifique implique une cause propre. Ah, c'est la grâce.
Oui. Ça peut être quelque chose d'un petit banal au rapport à la politique et la politique.
Exactement, j'y pensais. C'est exactement la même chose, c'est le conditionnement. Alors, à l'intérieur du traité du Christ, vous pouvez faire le traité de l'Église, mais pas séparément. Oui. Vous ne pouvez pas faire un traité de l'Église séparément du traité du Christ. Impossible. Et c'est pour ça que saint Thomas n'a pas fait un traité particulier de l'Église. Il a dit les sacrements. En faisant les sacrements, il montre le conditionnement, vous voyez, du point de vue politique. La politique de la tête, c'est de se servir des sacrements. Et c'est par là qu'il nous éduque. C'est tout traité de l'éducation du point de vue politique. Il nous faut maintenant considérer la grâce que le Christ possède comme tête de l'Église. À ce sujet, 8 questions se posent. Le Christ est-il tête de l'Église? Ah, c'est un... Si on voulait faire ça sérieusement, il faudrait le faire sérieusement, il faudrait regarder tous les lieux parallèles de saint Thomas dans ses commentaires. Si quelqu'un parmi vous veut faire ça, c'est très beau. C'est un très beau petit article à faire. Pas difficile. Relevez historiquement tous les traités de saint Thomas dans ses commentaires scripturaires. J'ai dit ça, c'est intéressant, parce que c'est là où on verrait bien la différence entre la somme et ses commentaires scripturels. Oui. Ça vaudrait la peine, ça.
Ça a été fait un peu par le père Merge qui est cité ici.
Ah, pas du tout, oui, je connais.
Non, mais au niveau de
oui, mon exégétique, pas du tout. Vous voyez, ce qui serait intéressant, je connais le traité du père Merge. C'est très beau, ce point de vue du corps mystique. Vous voyez, c'est très beau, mais... Ce que je voudrais, vous voyez, c'est que par rapport à la pensée de saint Thomas, c'est de comprendre le développement que donne saint Thomas dans les commentaires scripturaires sur la tête, le Christ-tête, dans les commentaires de saint Paul, la grande comparaison du Christ-tête. Et puis ce qu'il prend ici, vous voyez, alors on verrait le point de vue exégétique qui suit une analogie, est-elle métaphorique, est-elle propre. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, la manière différente dont saint Thomas est exégète et la manière différente dont saint Thomas est théologien scientifique. Ça, c'est passionnant. Et alors là, on a un lieu. Vous voyez ? Alors le Père Merche, il développe beaucoup le camp mystique. C'est très beau, c'est une très belle lecture. C'est pieux. Très belle lecture, c'est grand, c'est très beau, c'est bien quelque chose de très beau, d'abord. Mais il y a une fine pointe qu'on devrait faire par rapport à saint Thomas. Oui, c'est ça qui m'intéresse ici. Ça compléterait du reste ce que le Père Merche dit. Donc, le Christ est-il tête de l'Église ? Est-il tête des hommes en ceux qui regardent leur corps ou seulement en ceux qui regardent leurs âmes ? Tête aérienne ou tête incarnée ? Bien. Est-il tête de tous les hommes ? Est-il tête des anges ? C'est l'influence de la tête. La grâce que le Christ possède comme tête de l'Église est-elle identique à sa grâce personnelle ? Ça, c'est le nœud. Et je crois que c'est vraiment cet article 5 qui donne le lieu de commande. Revient-il en propre au Christ d'être tête de l'Église ? Le diable est-il tête de tous les méchants ? Alors, c'est la tête grimaçante. Hein, c'est un exemple qui voudrait être tête. L'antéchrist peut-il être appelé tête de tous les méchants ? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose plus beaucoup aujourd'hui. Je ne vois pas beaucoup de théologiens se poser cette question aujourd'hui. C'est des questions qui sont tout à fait propres au Moyen-Âge, qui sont belles du reste et qui demeurent. Ça, on peut très bien se poser la question. Alors, la grande question, le Christ est-il tête de l'Église ? Alors, vous voyez, les deux questions, est-il tête de l'Église ? Et le Christ comme grâce capitale et la grâce personnelle. 1 et 5. Alors, voyons tout de suite. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, Dieu l'a donné pour tête à toute l'Église. Ipsum dedit caput, super homme des Ecclésiens. Alors, posez-vous la question, on doit s'imposer, même si on n'arrive pas à la résoudre, donc caput. Tout le monde comprend, ça c'est du latin facile à comprendre, hein? Caput. Alors, est-il tête de l'Église ? Est-ce que c'est une analogie métaphorique ou une analogie propre ? Il faut se poser la question, même si encore une fois, on n'arrive pas à la résoudre. Elle est très délicate. Alors, de même que l'on donne à toute l'Église le nom de corps mystique, sicut tota ecclesia dicitur unum corpus mysticum. Alors, voyez le père de Lubach, la question sur le corps mystique, c'est cette expression. Le père de Lubach a beaucoup traité et historiquement, c'est intéressant de voir que ça a pris des significations différentes. De même que l'on donne à toute l'Église le nom de corps mystique, par analogie, per similitudinem. Hein, on traduit par analogie. Alors le per similitudinem de saint Thomas peut être très bien métaphorique, selon le langage de saint Thomas. Il est ordinairement métaphorique. Parce que quand saint Thomas parle avec précision, il l'emploie au point de vue métaphorique. Avec le corps naturel de l'homme, dont les divers membres ont des actes appropriés, ainsi que l'enseigne l'apôtre romain, de même on appelle le Christ tête de l'Église, par analogie avec la tête humaine. Secundum similitudinem, caputis humanis. Donc, voyez bien le parallélisme entre le corps et la tête. Parce que nous connaissons très bien, on parle du corps mystique, on parle du Christ-tête. Alors, le père similitudinem de saint Thomas, je ne crois pas qu'on devrait traduire par analogie. Ou bien, il faudrait dire par analogie métaphorique. Par comparaison. Ce serait plus juste. Persimilitudinem, vous voyez, parce que le persimilitudinem met avant la similitude et dans l'analogie, allo, allo. Oui, il est tout de suite saisir, je crois. Oui, l'analogie de l'artiste, c'est le père signé du même, quand on fait des comparaisons. Et l'analogie scientifique, c'est la diversité. L'analogie scientifique, c'est autre, autre, allons, allons. Et l'analogie métaphorique, c'est la similitude. Et dans la similitude, la diversité. Tandis que de l'autre côté, dans la diversité, l'unité. Le rapport est inversé, on n'est pas le même rapport. C'est ça qui est intéressant à bien voir. Et c'est intéressant parce que, comme on a facilement confondu dans la scolastique, vous comprenez la réaction d'un Karl Barth. L'analogie, c'est le diable. Pourquoi ? Parce que si vous confondez ces deux analogies, vous direz ce que le vieux grec disait, si les éléphants parlaient de Dieu, ils diraient qu'il est un éléphant. C'est dit, ça c'est beau, c'est très très joli. Et les hommes conçoivent Dieu en fonction d'eux. Le père similitude du même alors devient l'analogie. Alors c'est ce que dit Karl Barth, c'est au fond l'analogie, c'est le diable, parce que ça supprime la transcendance de Dieu. Et on met Dieu dans le prolongement de notre similitude. Si Karl Barth avait compris que la véritable analogie, c'est autre, autre, il aurait compris que l'analogie respecte la transcendance. C'est pour ça que c'est très, très important. Je dis ça, c'est parce qu'il faut que nous arrivions à discerner l'analogie propre et l'analogie métaphorique. L'analogie métaphorique, c'est la similitude, c'est les analogies des artistes. Quand les artistes disent analogie, qu'est-ce que veut dire une similitude ? Et nous, quand nous disons analogie tout court, ça ne veut pas qu'on parle des analogies, quand on dit analogie tout court, c'est allô, allô, c'est autre, autre. Au sens tout à fait propre. Vous voyez ? Alors, j'ai le droit de dire analogie métaphorique, tout à fait. Alors je sais que c'est le personnage lui-même. Tandis que lorsqu'il s'agit d'analogie propre, c'est autre, autre. Alors, dans l'altérité, dans la diversité, il y a quelque chose de commun. Dans la similitude, il y a la diversité. Donc vous voyez, c'est juste inversé. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, parce que par la similitude, vous prolongez, vous projetez. Tandis que dans l'autre côté, vous montrez la diversité. Nous continuons à bien préciser. Celle-ci, donc la tête humaine, celle-ci en effet, peut être considérée à trois points de vue différents. Au point de vue de l'ordre, de la perfection et de la puissance. Sous le rapport de l'ordre, la tête est l'élément premier de l'homme. En commençant par en haut, de là vient que l'on a coutume d'appeler tête tout ce qui est principe. Selon cette parole d'Ézéchiel, à la tête des rues, tu as élevé le signe de ta prostitution. C'est magnifique comme texte, hein ? Il fallait le trouver. À la tête des rues, tu as élevé le signe de ta prostitution. Donc alors vous avez tête comme étant le point de départ. Sous le rapport de la perfection, c'est dans la tête que se trouvent tous les sens intérieurs et extérieurs, alors que dans les autres membres, il n'y a que le sens du toucher. De là vient qu'il est dit dans Isaïe, l'ancien et le noble, c'est la tête. Sous le rapport de la puissance, c'est encore la tête qui, par sa vertu sensible et motrice, donne aux autres membres force et mouvement, et les gouverne dans leur acte. Voilà pourquoi l'on donne au gouverneur du peuple le titre de tête. Sous ce rapport, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu tête des tribus d'Israël ? C'est le texte des rois. Comme est parvulus in oculis tuis, caput in tribus Israël factus est. Or, voyez bien le raisonnement, analogie métaphorique. Or, ces trois fonctions de la tête appartiennent spirituellement au Christ, spiritualitaire. En raison de sa proximité avec Dieu, sa grâce est en effet la plus élevée et la première, sinon temporellement, du moins en ce sens que tous ont reçu la grâce par comparaison avec la sienne. Selon cette parole de l'Épître aux Romains, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi un grand nombre de frères. Donc, point de vue de la perfection. La grâce du Christ est première, non pas temporellement, mais au point de vue de la perfection. De même, sous le rapport de la perfection, le Christ possède la plénitude de toutes les grâces, selon cette parole de saint Jean. Nous l'avons vu, plein de grâce et de vérité. Enfin, pour ce qui est de la puissance, le Christ peut communiquer la grâce à tous les membres de l'Église, ainsi qu'il est dit encore dans saint Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu. Il apparaît donc avec évidence qu'on peut fort bien donner au Christ le nom de tête de l'Église. Et sic patet quod convenienter dicitur Christus caput ecclesiae. Si vous regardez attentivement le langage de saint Thomas, vous voyez bien que vous êtes en face d'une analogie métaphorique. Le convenienter, hein, et c'est de montrer la convenance de cette attribution. Et la convenance de cette attribution provient tout simplement de la triple fonction reconnue habituellement à la tête. Et cette triple fonction attribuée habituellement à la tête s'applique parfaitement au Christ. La fonction de la priorité, la fonction de la perfection et la fonction de la puissance. Je crois qu'il ne faut pas demander plus qu'un raisonnement d'une analogie métaphorique par rapport aux fonctions. Vous voyez, ce qui montre bien encore, hein, pas de théologien, pas de... Vous voyez, théologie divine, hein, les fonctions, le conditionnement, c'est plus principe. Très, très, c'est très intéressant, c'est dit explicitement, si vous regardez attentivement.
Oui. Ce qui caractérise justement la magie métaphorique, c'est que ce n'est pas toujours par, comme fonction, par rapport à...
Tout est propre. Ce qui caractérise la magie de la création, c'est les propriétés, c'est pas le principe. Les propriétés, les fonctions, ça se touche. Mais c'est les propriétés en analyse proprement philosophique. Toute analogie métaphorique regarde les propriétés. C'est pour ça que c'est par le point de vue de la similitude. Et non pas le principe, et non pas la structure d'un être.
Il y a des éléments propres à l'intérieur. L'homme, la perfection et la vertu sont propres à l'intérieur de la l'ordre, la perfection et la vertu sont quand même quelque chose qui en eux-mêmes sont propres.
Oui. sont réalisées selon des modalités totalement différentes. Voyez. Et alors je prends ces fonctions dans leur similitude en respectant leur diversité ensuite. Voyez.
Est-ce que dès que la comparaison est faite avec une réalité substantielle, la tête est pas vraiment substantielle, mais quand même, c'est une partie. Hein. Est-ce que dès qu'on a une réalité substantielle, c'est forcément métaphore? Et que l'analogie propre est forcément abstraite,
implique une... Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est plutôt la question du principe. Le principe, vous voyez, abstrait, c'est délicat, descriptif, si vous voulez. On peut dire descriptif, l'analogie métaphorique est descriptive. Parce qu'elle regarde la propriété. Alors elle est descriptive.
Dès qu'elle porte une analogie substantielle, elle est forcément métaphorique.
Substantielle, vous voyez, substantielle, c'est pour les substantielles, c'est le principe, au contraire. Au fond, j'aime mieux dire descriptive. Elle est descriptive, donc elle implique la substance. C'est bien évident, mais c'est descriptif, ça implique les fonctions, ça implique les propriétés. Les propriétés, vous pouvez les décrire. Les fonctions, vous pouvez les décrire. Tandis que le principe, vous ne pouvez pas le décrire. Le principe comme tel échappe à toute description. On le saisit par l'intelligence.
Oui. Est-ce que la troisième raison en virtus n'est pas proche de la cause efficient de virtus? Je veux dire, de ces trois analogies, il semble que la virtus est la plus propre, même si... Parce qu'on avait déjà trouvé dans d'autres articles que saint Thomas s'était servi de la virtus.
Oui.
Ce qu'on peut dire, c'est la plus propre des trois raisons.
Oui, c'est sûrement celle qui, par laquelle on pourrait le plus facilement découvrir quelque chose. Mais vous voyez, il apprend à rassembler aux autres. Il fait un tout. On ne peut pas la séparer.